Vous écoutez RTL.
Jean-Michel Apathy à 7h48 sur RTL. Vous recevez ce matin le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly.
Bonjour Jean-Claude Mailly.
Bonjour.
Le chômage a hélas encore augmenté au mois d'avril en France. 14 800 nouveaux chômeurs. Le total des demandeurs d'emploi sans activité culmine aujourd'hui à 3 364 000. C'est donc sans fin l'augmentation du chômage, Jean-Claude Mailly.
Pour le moment, oui. On est dans une prolongation de la non-inversion, si je puis m'exprimer ainsi.
Et rien ne permet de penser que ce sera différent dans les mois qui viennent aussi.
Je crains que non. Dans la limite, on a toujours une croissance économique très plate ou qui augmente très légèrement, et qui dit croissance économique faible dit augmentation du chômage. Tant qu'on retrouvera pas une croissance plus forte, on aura malheureusement une risque d'augmentation continue du chômage, et ça touche tout le monde. Sur un an, il y a un peu moins de chômeurs jeunes, mais il y a beaucoup d'entrées en stage également, mais sur notamment les seniors, il y a une très forte augmentation. Il y a de plus en plus de chômeurs non indemnisés par le régime d'assurance chômage, donc qui basculent dans les minima sociaux. Non, c'est une situation qui n'est vraiment pas bonne.
On ne voit pas comment la contrarier. Vous parlez de la croissance, on attend la croissance. Elle ne sera de toutes les façons pas très forte en France cette année. Alors du coup, le gouvernement essaie peut-être de tenter d'autres pistes. Hier, le ministre du Travail, François Rebsamen, a expliqué ceci, je le cite, les organisations patronales affirment que les seuils de 10 et de 50 salariés, qui déclenchent ensuite des obligations sociales dans les entreprises, ces seuils-là constituent des freins à l'embauche, dit François Rebsamen. Je dis donc aux organisations syndicales que le meilleur moyen de faire tomber l'argument du MEDEF, c'est de tenter l'expérience et de suspendre pendant 3 ans les seuils sociaux, l'application des seuils sociaux.
Non, nous ne sommes pas d'accord avec une telle formule. Ça, c'est une vieille revendication patronale. Ça fait, 20 ans ou 30 ans qu'on l'entend de manière régulière, notamment sur les PME. Enfin, je rappelle que 10 salariés, c'est la mise en place des délégués du personnel. 50 salariés, c'est la mise en place des comités d'entreprise et des CHSCT. De penser que on va remettre en cause des formes de consultation, des formes d'information des salariés ou les récriminations individuelles concernant les délégués du personnel. Non, c'est pas ça qui va faire reculer la courbe du chômage.
Mais quand les entreprises disent, pour nous, c'est un frein psychologique. J'ai 7-8 salariés, j'ai un peu de travail, j'embauche pas, parce qu'après je vais passer le seuil de 10. Et pareil quand on a 45, 6, 7, 8, 9 salariés.
C'est pas faire baisser les seuils, il faut appeler un psychologue à ce moment-là, pour expliquer que c'est pas ça qui va changer fondamentalement.
Mais c'est plus de charges, plus de difficultés.
Il y a certains aspects fiscaux, mais qui ont déjà été atténués à partir de 20. Ça, les choses peuvent être regardées. Mais moi, quand je parle des seuils, je parle de l'existence de seuils ouvrant droit normalement, parce que toutes les entreprises ne respectent pas, à l'existence d'un comité d'entreprise. C'est ça. Ça veut dire qu'on remettrait en cause l'information, la consultation des salariés. Il ne faut pas nous parler de dialogue social à partir de là. Non, c'est vraiment une mauvaise piste. C'est pas avec ça qu'on va retrouver de la croissance.
Vous n'êtes pas disponible pour ce genre d'essai. Autre chose, Fleur Pellerin, ministre du Tourisme, disait, elle aussi hier, elle expliquait qu'il faut développer le tourisme en France, que beaucoup d'étrangers viennent en France, mais ils dépensent moins que dans d'autres pays, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, dit-elle, et je cite Fleur Pellerin, dans la plupart des capitales européennes, les magasins sont ouverts le dimanche. C'est des vieilles lunes, tout ça, c'est ça. Vous avez l'air accablé.
Oui, non, je ne suis pas accablé, mais j'ai entendu Laurent Fabius expliquer ça il n'y a pas longtemps.
Oui, c'était ici.
Bon, allez, travailler avec Laurent Fabius.
Il faut en discuter avec les syndicats, dit-elle. Mais il faut bien débloquer quelque chose.
Oui, mais c'est vrai que
la croissance, on l'aura
Jean-Michel,
pas tout de suite.
Jean-Michel Apathy, vous voyez, regardez. Première annonce, là, monsieur Rebsamen, il faudrait suspendre les seuils. Ça s'appelle de la déréglementation. Fleur Pellerin ou Laurent Fabius, il faudrait ouvrir plus les magasins le dimanche. Encore de la déréglementation. C'est ce mouvement-là qui...
Est-ce qu'il n'y a pas trop de réglementation?
Il y a des choses qui peuvent être regardées, mais pas sur ces questions-là. Enfin, attendez, moi je veux bien...
On ne sait pas toujours les questions.
Non, mais attendez, je veux bien toujours sur l'exemple du travail le dimanche, et on nous prend toujours l'exemple des Chinois qui viennent à Paris avec des tours opérateurs. Bon, il faut changer le circuit, qu'ils aillent dans les magasins le samedi et dans les musées le dimanche. Enfin, faut arrêter ce genre de choses. Le jour où tout le monde travaillera le dimanche, il n'y aura plus personne dans les magasins. Enfin, c'est vraiment pas des solutions au problème du chômage. Si on veut taper dur contre le chômage, il y a à la fois des dispositions à prendre au niveau européen, il y a des dispositions à prendre au niveau national. Il y a un travail qui est entamé sur les filières industrielles qui est important, par exemple. Il faudra retravailler sur les questions de la réforme de l'État, mais pas telle qu'on le fait aujourd'hui. Il aurait fallu ne pas abandonner l'idée de la réforme fiscale, ce qui peut redonner de la confiance également. Voilà, ça, ce sont des pistes sérieuses si l'on veut effectivement lutter contre le chômage, mais on va pas continuer à tout déréglementer.
Abandonner l'euro ? pour retrouver la croissance.
Non, c'est pas une solution d'abandonner l'euro. Par contre, il faut revoir les modalités de la construction. Non, pour nous, c'est pas une solution.
On dit que l'euro, trop fort, les contraintes qu'impose l'euro, tout ça comprime l'économie française. Oui, donc, après tout,
ça comprime
abandonner l'euro, c'est peut-être...
Un euro trop fort, sur le plan des taux de change, peut pénaliser certaines entreprises comme celle de la construction aéronautique par exemple, sur les marchés où les marchés se font en dollars. Bon, ça, effectivement, ça peut jouer, mais ça ne concerne pas tous les secteurs. C'est pas l'euro en tant que tel qui pose problème, c'est les conditions de mise en place de l'euro, le fait qu'il y a une coordination des politiques insuffisante, le fait qu'on est tous dans une logique plus ou moins d'austérité au niveau européen, le rôle de la Banque Centrale, c'est la question des traités, c'est pas la monnaie en tant que telle, c'est les conditions, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Et nous sommes critiques sur ces questions-là. D'ailleurs, la quasi-totalité des syndicats européens, dont je rappelle, se sont tous opposés au pacte budgétaire européen.
Le Front National tient le discours de sortie de l'euro. Le Front National a fait 25% des voix, et on lisait dans un sondage IFOP hier que publiait l'Humanité que beaucoup de sympathisants de Force ouvrière avaient voté, avaient envie de voter pour le Front National.
Oui, mais écoutez,
vous
d'abord,
avez vu ce
sondage? Oui, j'ai vu le sondage. Ce sont des sympathisants, des gens qui se disent proches. C'est pas forcément des adhérents, mais allez.
Ça veut dire quelque chose quand même. Quand vous parlez, ils se reconnaissent plutôt dans votre discours et ils ont envie de voter Front National.
Mais attendez, qu'est-ce que quand vous regardez la population salariée aujourd'hui, quand vous prenez les bassins ou les endroits où il y a eu énormément de chômage, où il y a du chômage, où il y a des entreprises qui ont fermé, etc. Beaucoup de salariés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ça change, moi, sur l'emploi, ça a changé quoi, ma situation? Qu'est-ce que ça change sur mon pouvoir d'achat, etc. Est-ce que si je perds mon boulot, est-ce que je vais en retrouver un? Et au bout de 2 ou 3 ans, si j'en ai pas trouvé, je vais me retrouver aux minima sociaux. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'en haut, ils comprennent? Voilà. Et il y a une partie des gens qui considèrent, à tort selon moi, mais qui considèrent que c'est une forme, une manière de donner un coup de pied dans la fourmilière. Hein, donc,
qu'est-ce qui peut changer? On voit pas bien.
Ça fait 2 ans que nous expliquons, nous, à Force ouvrière, que, attention, l'austérité, c'est suicidaire socialement, ça remet en cause des droits. Économiquement, ça plombe la croissance.
Mais en même temps, il faut rétablir les comptes publics.
Et démocratiquement. Si on n'est pas plus malin que d'autres. Si nous, on pense ça. En haut, quand je dis en haut, à l'Élysée ou ailleurs, ils ne sont pas conscients de ça. Alors pourquoi ils ne changent pas de politique? Pourquoi ils ne mettent pas les conditions permettant un changement de politique économique?
Parce qu'il n'y a pas de sous, parce qu'il y a des déficits, parce que l'impôt rentre mal.
Mais pourquoi il rentre mal?
On va faire la liste des problèmes.
Regardez bien, on ne nous parle que du déficit budgétaire.
Oui. Bah, oui.
Les 3%.
C'est important. Non, c'est pas ça le déficit budgétaire.
Le déficit budgétaire, c'est 3%.
C'est 70 milliards d'euros qui manquent chaque année pour boucler le budget. C'est ça le déficit budgétaire.
Le déficit budgétaire, le taux de déficit budgétaire qu'il faut atteindre. 3% de déficit, 0,5% de déficit structurel. C'est ça l'objectif.
Si on pouvait atteindre 0, ça serait mieux.
Et on nous parle de la dette. La dette publique, on en parle ?
2 000 milliards d'euros.
Pourquoi on n'en parle pas de la dette publique ? Parce qu'elle augmente. Parce qu'elle continue d'augmenter, y compris avec l'austérité. Donc on se plante. Ça veut dire qu'on se plante dans la logique économique et sociale.
Bon. Optimiste, pessimiste ce matin ?
Quand je milite, je suis optimiste, par définition.
Bon, d'accord. Donc... Jean-Claude Mailly, optimiste, était l'invité d'RTL ce matin.
Optimiste, je notais cette expression de Jean-Claude Mailly qui parlait de prolongation de la non-inversion de la courbe du chômage.